avec lesquels on peut tout à fait être en désaccord, qu'on peut discuter, qu'on peut, mais
ça ne justifie pas de les brûler, quoi.
Voilà, c'est ça qui était choquant justement dans cette affaire de Saint-Imier. C'est pour ça que je voulais faire cette émission entre guillemets à chaud, enfin à deux mois de l'événement, pour tenter d'y apporter notre réflexion et puis de continuer à dire qu'on voilà, on peut discuter, on peut continuer un des fondamentaux quand même du mouvement libertaire et anarchiste et anti-autoritaire, c'est quand même ni Dieu ni maître. Il semblerait qu'aujourd'hui ça devienne presque un gros mot, hein, pour certains en tout cas, c'est quelque chose qui a été revêtu d'une sorte d'opprobre et ça n'a plus lieu d'être, alors qu'au contraire il faut réaffirmer, je pense.
Ah oui, plus que jamais.
Plus que jamais, c'est fondamentaux. En tout cas, l'émancipation sociale, ouais, et collective et individuelle ne pourra pas se faire sans qu'on remette en question aussi tous ces dogmes, qu'ils soient religieux ou autres, et donner la possibilité aux individus et aux collectifs de se libérer de tous ces déterminismes et de toutes ces chaînes qui empêchent la pensée et donc l'émancipation.
Je pense que l'erreur de l'impasse islamique, des éditeurs, c'est d'avoir eu recours à Onfray, quoi.
Oui, oui.
Je pense que c'était dans une intention relativement, compréhensible de faire un peu de la pub.
Voilà.
De faire appel à un intello de haut vol, ça fait de la pub. Je pense que c'est l'erreur qui est là, quoi. Parce que les intellos de haut vol sont assez volatiles, politiquement et idéologiquement. Et on ne sait jamais aujourd'hui ce qu'ils seront demain, quoi.
Oui. En tout cas, cette préface, elle fait une page et demie.
Oui, bon, c'est...
elle est tout à fait dispensable. Et le texte de Mizanas, lui, par contre, donne des pistes de réflexion tout à fait intéressantes. Notre émission touche à sa fin. René, je te remercie infiniment.
Bah, c'est moi qui te remercie.
En tout cas, c'était un plaisir de discuter, de poursuivre cette conversation.
Bah, surtout que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu.
Ça faisait un moment, effectivement. Et puis, c'est une conversation qu'on a commencé il y a pas mal d'années. Ouais. Et puis, qu'on va, j'espère, continuer et poursuivre. On va laisser la place à nos amis du monde merveilleux du travail qui sont présents déjà dans le studio et qui vont s'installer au micro. Voilà, donc le syndicat CNT va prendre le micro dans quelques instants. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Normalement, j'espère avoir à cette table Nedjib Sidi Moussa, donc on a déjà accueilli plusieurs fois dans la radio, pour nous parler de l'école et de son journal d'un précaire à l'éducation nationale. Lulu, c'est à toi.
Alors, Jeff Bezos, loin de la Terre, avec ses containers, vivra tout seul. C'est beaucoup mieux qu'avec ses actionnaires.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ces désirs brûlés. Sur ces désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Il est encore passé ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire. Édito du lundi 18 septembre 2023 du Monde Merveilleux d'après. La seconde première reprise du cours de notre émission après la pause estivale. On l'a loupé il y a 15 jours. Hein. Il est toujours intéressant de donner un coup de projecteur sur les expériences autogestionnaires, surtout quand les retours médiatiques en leur temps ont pu être déformés ou aujourd'hui carrément tus. Pour ce second volet consacré au film documentaire de 2009, de Jean-Michel Rodrigo, Villa El Salvador. Nous retrouvons donc son réalisateur et nous sommes accompagnés aussi de Jean-Manuel Trémont, avec qui nous explorerons cette fois-ci le volet économique de la ville autogérée. Vous pourrez donc écouter en podcast sur le site Radio Libertaire, enfin radio-libertaire.net, à la date du lundi 6 février 2023, du Monde Merveilleux du Travail, le premier volet, la création de Villa El Salvador. Mais tout de suite, dans le monde merveilleux du travail, comme il n'y a pas de chronique, on va s'écouter tout de suite une petite musique latino-américaine qui n'est pas péruvienne. Mais...
llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Te lo puedo negar, se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque, compadre, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Eh bien, vous venez d'entendre Compay Segundo qui interprétait Chan Chan, c'est pas très péruvien. Cubain.
Non, c'est pas
vrai. Ouais, bon, j'avais que ça. Effectivement, j'ai pas demandé à ce qu'on m'amène de la musique péruvienne.
Ah, j'aurais pu t'amener. Il y a beaucoup de musiques péruviennes différentes les unes des autres. Il y a vraiment tout un courant musical qui ressemble à celui des Cubains et qui est, on va dire, musique criolla, créole, la musique des villes, avec une grosse influence noire, quoi. Avec les mêmes instruments de musique, el cajón et voilà. Et Lima est une ville très riche musicalement.
Pardon, qu'est-ce qu'un cajón ?
Le cajón, c'est la grosse caisse en bois, sur laquelle en général les gars sont assis et tapent. Le cajón, la caisse en fait, la caisse. Voilà, donc j'aurais pu amener.
Eh ben trop tard.
Ouais, c'est pas grave.
Une troisième alors ?
Oui, enfin une troisième, voilà. Enfin une troisième, tendance musicale.
Ah ouais, ça serait pas déplaisant.
Résistons à la tentation de prendre la table du studio pour un cajón.
Voilà. Donc, on s'était déjà rencontrés donc en février de cette année.
Avec plaisir,
et puis,
c'était intéressant.
On avait évoqué la création de Villa El Salvador. Donc, on peut peut-être rappeler un petit peu, c'est créé dans les années 70, début des années 70.
71, précisément.
Voilà, donc voilà. Précis. Dans le désert. Donc il y
en plein désert.
Les habitants... Les personnes qui ont constitué les habitants ont tout construit d'eux-mêmes.
C'est ça.
Et c'est une ville qui existe encore, qui perdure, qui vit, qui s'est bien développée.
Alors, c'est juste, oui. On reprend tout un petit peu en amont, et c'est parce que c'est comme tout le reste de la vie, tout est un peu plus compliqué que ça, quoi. C'est, voilà. Alors déjà, les gens se sont retrouvés là-bas, parce que juste avant, il y avait eu un énorme tremblement de terre, et que le tremblement de terre avait provoqué ce qu'on appelle un waiko, c'est un débordement, un derrumbe.
Un glissement de terrain,
voilà. Un glissement de terrain énorme qui avait carrément englouti une ville et tué beaucoup de monde et laissé plein de gens sans toit, sans. Et les gens à l'époque sont descendus, c'était naturel, c'était les grandes périodes d'exode rural. Donc les paysans, dès qu'ils avaient un problème de crise, soit agricole, soit n'importe quoi, ils fonçaient en ville, ils étaient attirés comme en Europe à la fin du. Enfin, au 19e siècle, quoi, attirés par les lumières de la ville, comme on disait. Et donc ils ont débarqué là-bas, pensant qu'à Lima, la ville moderne, etc., on allait les accueillir à bras ouverts et s'occuper d'eux. Ce qui était une plaisanterie. Personne ne s'est occupé d'eux et personne ne voulait d'eux. Donc ils se sont installés comme. En respectant un peu les traditions d'ailleurs du moment, les traditions révolutionnaires entre guillemets du monde paysan de l'époque, c'est que quand on n'a pas de terre, on occupe une terre. Là, ils n'avaient pas de lieu où habiter, ils ont occupé un terrain pour construire les maisons dans lesquelles ils entendaient bien pouvoir vivre. Sauf que ça s'est pas passé tout à fait comme ça. C'était il y a eu un gros propriétaire terrien qui s'est vraiment opposé absolument à ça. Il avait des soutiens gouvernementaux assez importants. Et en même temps, la bagarre a été telle que le gouvernement était obligé de reculer. Et en échange de ce terrain qui appartenait à ce gros bonnet, ils ont donné un terrain qui était un terrain d'entraînement pour parachutistes. Un immense terrain, c'était super. Les gens, quand ils ont appris ça, ils étaient hyper contents. Quand ils ont vu ce que c'était, ils étaient déjà moins parce qu'en fait, c'était
du sable.
Un immense coin de désert. Immense coin de désert avec rien. Du sable, de la rocaille. Pas de route, pas d'eau, bien évidemment pas d'électricité, mais pas même de route pour y arriver. Et donc, il a fallu tout bâtir. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'à l'époque, pour mesurer l'ampleur de la crise, c'est que les premiers arrivés, ils étaient moins de 1000, qui correspondaient aux gens qui venaient de la campagne et qui étaient dans le souci que j'ai... Enfin, souci, plus que souci, de logement que j'ai évoqué juste avant. Le problème, c'est que en moins d'une semaine, ils étaient 100 000. C'est-à-dire que quand le reste de la population à Lima, tous les gens qui étaient dans des bidonvilles, dans des quartiers, surtout les quartiers délabrés du centre de la ville, qui étaient des trucs qui se lézardaient, qui tombaient en ruine, il n'y avait plus rien, etc. Et qui étaient beaucoup d'ailleurs des ouvriers, là pour le coup, pas des paysans, hein, c'est des ouvriers. Quand les gens ont appris qu'il y avait cette possibilité-là, il y a eu littéralement un déferlement sur le terrain, qui était immense pour les 1000 personnes. Ouais. Et très rapidement, il y a eu 100 000 personnes. Et on évoque, d'ailleurs, au tout début du film, qui est la raison pour laquelle, la dernière fois, j'étais venu, au tout début du film, on évoque le témoignage d'une femme qui, quand elle est arrivée, elle a dit, où est-ce que c'est la ville? Et les gens lui ont dit, mais la ville, elle est en toi, c'est toi qui vas la faire, etc. Et en fait, et elle a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu.
Ouais.
Et en fait, elle allait accoucher. Et elle a dit, j'ai accouché sur la ville future. Et symboliquement, ce qui est marrant, c'est que son fils est devenu maire 30 ans plus tard. Voilà. Donc, c'est une caricature. Enfin, c'est pas une caricature, mais c'est...
C'est une belle histoire.
C'est un joli symbole. C'est un joli symbole. Voilà. Et donc, effectivement, il y avait rien. Ils ont tout construit de A à Z. Et le truc le plus fort, parce que ça venait de cette aspiration du monde paysan, avoir le droit, accès, non pas à la modernité, à ce mot bidon là, mais avoir le droit à accès à une chose fondamentale qui est celui de la culture, et pas seulement de la culture, parce que le monde rural a de la culture et a énormément de culture, et le monde rural indien, andin en particulier, a une culture très très puissante. Mais là, c'est l'accès à la culture, on va dire, elle est universelle, accès à la lecture et à l'écriture, accès aux journaux, accès, etc. Et donc, pour eux, la préoccupation principale, c'était que leur môme sache lire et écrire, alors qu'eux, ils étaient illettrés. Et donc, il n'y avait pas encore vraiment une maison construite, qu'il y avait déjà des écoles, enfin des salles de classe qui étaient bâties, et ils avaient été chercher des instits qui étaient d'accord pour jouer le jeu de cette école en devenir, cette école en briques sans toit, avec juste de la paillasse, etc. Et ils ont trouvé cinq instits. Et de ces instits, d'ailleurs, est né, on va dire, en grande partie de ces instits, est née la notion même d'autogestion. Parce que ils étaient cinq, et ils avaient, je crois, si mes souvenirs sont bons, ils avaient trois salaires, et ils savaient qu'ils étaient cinq, mais qu'ils allaient être beaucoup plus, très vite, beaucoup plus. Ils avaient besoin de beaucoup plus de monde, il y avait des mômes partout. Et donc, ils ont commencé par dire... On va revendiquer les salaires, on va revendiquer, mais en même temps, on va pas attendre que ça tombe pour se lancer dans l'aventure. Ouais. Donc ils ont créé une caisse commune et ils ont fait, ils l'ont autogéré et ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Et la plupart des dirigeants futurs de cette ville sont des gens qui ont grandi dans cette ambiance extrêmement chargée symboliquement des, on va dire, des premières années, des premiers jours, premiers mois, premières années.
Ça montre que la collaboration, l'entraide, la solidarité, bah oui, ça fonctionne et c'est efficace.
Alors, ça a été pas efficace, ça a été incroyablement efficace. Ça a été d'une certaine manière, ça a été époustouflant parce que on reviendra après dans l'émission. C'est pas un conte de fées. Je cherche pas à raconter une histoire complètement idyllique, etc. Il y a eu plein de travers et après, au fil des années, il y a eu de plus en plus de travers. Par contre, ce que je crois qui vraiment est très important dans cette histoire-là, c'est à un moment donné, il y a une conjonction de phénomènes, d'événements, de rencontres entre des humains qui fait que les choses deviennent possibles. Et je trouve que c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que à un moment donné, je suis assez d'accord avec les gens qui, dans les années 30, disaient « mais tout est possible, faut vouloir, faut se battre, voilà, mais tout est possible ». Et tout est possible, pas à n'importe quel prix, mais oui, tout est possible. Et ils en ont fait la démonstration, c'est-à-dire qu'ils ont construit une ville, qui aujourd'hui est de presque 600 000 habitants. Très vite, je disais, ça a été plus de 100 000, mais très rapidement, ça a été plus de 300 000 et bientôt 400 000. Et il a fallu régler des problèmes majeurs, le problème de l'arrivée de la flotte. Pour des centaines de milliers de personnes. Le problème des égouts, pour des centaines de milliers de personnes.
Oui, il y avait tout à faire en même temps.
D'où un premier élément de réponse par rapport aux questions que l'on se pose dans cette émission, visiblement, sur les questions économiques. C'est que pour bâtir une ville, il y a besoin de beaucoup de bras et de main-d'œuvre, de matériaux et de transporteurs, et etc., etc. Ça a été la première source de travail et la première étape de l'économie de cette ville. Alors, les gens au point de départ n'avaient quasiment pas un rond. Les ouvriers, ils avaient peut-être 3 francs 6 sous, mais à peine. Donc, tout le monde, on va dire la première année et demie, 2 années, peut-être 3, je ne pourrais pas dire avec précision, mais dans les premières années, toutes premières années, l'immense majorité des hommes travailler à l'extérieur. Ils allaient en ville, à l'époque à 30 km. Mais déjà, ça a commencé quand même à créer de l'emploi dans le transport, parce qu'il n'y avait pas de route, mais les camionnettes, Volkswagen, là, les machins, etc., ils prenaient le risque d'aller dans le sable, de déraper dans le sable, et ils venaient chercher les gens pour les amener en ville. Parce que
ils ont tracé les routes, en fait.
Et puis, très rapidement, il y a eu la première avenue avenue asphaltée, puis la deuxième, puis la troisième, et puis tout ça s'est développé. Et pour faire bouger des dizaines de milliers de personnes tous les jours pour aller en ville, il faut beaucoup de transport. Et beaucoup de transport avec des vieilles guimbardes, il faut aussi beaucoup de réparateurs. Et il faut, etc., etc., etc. Ça, c'est vraiment le point de départ de l'économie. Les femmes restant à la ville, dans le quartier, future ville, restant dans le quartier pour s'occuper d'une chose essentielle, ce qui était la répartition traditionnelle de la famille, elles s'occupaient de la bouffe,
des enfants
et de l'école. Donc elles ont contribué très rapidement aux côtés des écoles à créer des jardins potagers, à produire de la nourriture, c'était un travail aussi. À tisser, à tricoter, à faire du boulot. Et ça a été une deuxième source, on va dire progressivement, c'était une deuxième source non négligeable de travail et de ressources financières et d'économie, qui était celle de la toute petite agriculture de survie et plus développée, et ça se développera au fil des années énormément, ce qui est tout la confection de vêtements, le tissage, tout. En fait, tout ce que savaient faire les paysans dans leur propre univers. Voilà, ils l'ont introduit à la ville, et au lieu de le faire chacun dans son coin, là, ils étaient dans des conditions, ils étaient dans une situation où, en fait, rien ne se faisait dans son coin, tout se faisait collectivement, tout se décidait collectivement.
Paradoxalement, c'est peut-être justement l'extrême difficulté de l'environnement qui a poussé, qui a permis... Il y a la vieille culture andine de l'action collective, mais je crois aussi que là, les gens n'avaient pas le choix. Si on est dans le désert, on est obligé de faire tout un tas de choses, et ça permet quand même aussi beaucoup l'action collective. Alors tout ce que tu dis, moi, ça me fascine, parce que la comparaison avec Christiania était, et la condition de départ de Christiania était très différente, puisque Christiania, c'était, alors je rappelle, Christiania, c'est une caserne au Danemark, où, la même année, qui a été envahie non pas par 600 000 personnes, mais juste par 1000 au départ, mais ils sont restés à peu près 1000. Mais il y a quand même un truc en commun, c'est que comme la caserne avait été, non pas dévastée, mais des artisans étaient entrés dans la caserne pendant 2 ans et avaient tout piqué, toute la plomberie, toute l'électricité, les 3/4 des fenêtres, la plupart des portes, etc. Malgré tout, les Danois qui sont entrés dans cette caserne, ils se sont retrouvés, pas du tout dans la même situation qu'en plein milieu d'un désert, mais ils sont quand même aussi retrouvés en face d'un mur, c'est-à-dire que ou bien on fait quelque chose, ou bien c'est pas la peine, il n'y a rien, il se passera rien, Alors, dans le cas des Péruviens, on crèvera. Dans le cas des Danois, ils pouvaient toujours revenir avec l'aide sociale. Mais ils ont été, eux aussi, avec le dos au mur. Et là aussi, ça a été un puissant accélérateur de l'action collective. Tu parlais il n'y avait pas de tout à l'égout, donc, à Villa-sur-la-Va. Ils ont été obligés de tout refaire. Mais le système de tout à l'égout de la caserne était complètement bousillé. Et c'est vrai, Christiania, ils ont dû, par exemple, refaire un système électrique et refaire un système de tout à l'égout. Et à l'époque, sans un rond de subvention de l'État. Et on s'aperçoit dans ces conditions-là qu'on peut le faire. Souvent, on croit qu'on ne pourrait pas, et en réalité, à nouveau, des expériences autogestionnaires, alors de très grande échelle, exceptionnelles, comme celle de Villa Salvador, ou celle relativement exceptionnelle aussi de Christiana et plein d'autres, on peut le faire. Cela dit, c'est un fait que vaut mieux avoir le dos au mur.
Ouais, alors... Je rajouterais que en réalité, c'est pas seulement le désert, c'est le fait que les agriculteurs, les paysans, agriculteurs ou éleveurs, peu importe, qui ont débarqué à Villa El Salvador, ils avaient une tradition de travail collectif, mais pas comme ça, c'était pas inné, c'est aussi parce que eux, depuis 5 siècles, leur survie à la conquête espagnole a dépendu de 2 choses. Le fait qu'ils soient capables de monter très haut dans les montagnes, mais vraiment dans des endroits qui étaient non pas inaccessibles, mais invivables pour des Espagnols normaux, c'est-à-dire entre 3000 et 3500, 4000 et plus pour vivre, apprendre à cultiver dans des endroits pareils aussi difficiles et austères, et donc forcément de maintenir, voire de développer, toute la tradition et l'habitude culturelle, là, héritée de l'époque des Incas, etc., du travail collectif. Mais là aussi, c'était de toute façon, c'était nécessité qui faisait loi quand ils ont tenu le fait de pouvoir tenir pendant 5 siècles à une folie comme la conquête espagnole dans ces pays-là, et alors que les Espagnols avaient pour objectif d'exterminer tout ce monde-là, parce que de toute façon, ça il valait pas un clou dans les mines, avec les préjugés, il valait mieux faire venir des esclaves d'Afrique parce que l'Indien préfère mourir que etc. Il y a beaucoup de mythes, c'est plus compliqué que ça, mais toujours est-il que a priori l'idéal pour les coloniaux, les conquistadors puis leurs descendants, l'idéal, et j'ose dire qu'aujourd'hui encore il y a un certain nombre de gens qui pensent comme ça dans les élites blanches de Lima, le Pérou irait beaucoup mieux sans ce boulet, ce fardeau que sont les Indiens andins, et on parle même pas des Amazoniens, les Indiens andins. Voilà, et en même temps, les Indiens andins, ils ont fait des démonstrations incroyables, parce que ce que moi je trouve assez drôle comme pied de nez à l'histoire, c'est que ces gens illettrés, pauvres, immensément pauvres, soi-disant arriérés, venant de leurs montagnes paumées dans lesquelles ils avaient le plus grand mal à cultiver la pomme de terre, etc., etc., ils débarquent dans un désert, aux portes de la ville, la capitale du Pérou, Lima, avec une élite intellectuelle et culturelle et économique qui fait sa maligne depuis des siècles. Ils débarquent dans le désert et au bout de quelques années, ils donnent des leçons d'urbanisme. Parce que ils ont réussi à construire quelque chose de cohérent du point de vue justement des systèmes d'eau, des systèmes d'irrigation, d'arrivée d'eau, de dessagouer, là, de dégoût. Les routes, les écoles, etc., etc., à une vitesse inouïe, alors que la ville elle-même est empêtrée dans ce genre de problème. Et au bout de quelques années, tout le monde est obligé de reconnaître que, par exemple, parce qu'ils se posent des questions environnementales dès le début, non pas comme des écolos, mais comme des agriculteurs qui ne supportent pas le désert. Donc ils se posent des questions environnementales dès le début, et ça donne qu'ils se disent comment fait-on pour retraiter les eaux usées et comment se sert-on des eaux usées pour fertiliser le sol, et qu'ils vont faire pousser très très vite des arbres parce qu'ils supportent pas qu'il n'y en ait pas, et ils vont tenter de l'agriculture, ils vont tenter de l'élevage, etc. Et jusqu'à une époque, alors ça peut-être changer maintenant, mais jusqu'à une époque pas si lointaine, Villa El Salvador était le seul district de la zone de Lima, de la métropole, et est le seul district qui ne rejetait pas ses eaux usées dans le Pacifique. C'était le seul. Tous les autres, ils déchargeaient ça dans le Pacifique, ils s'en foutaient. Et eux, non, ils retraitaient, et en particulier pour planter des arbres. À un moment donné, toujours pareil, ils les incitent, le côté coopératif, le côté autogestionnaire, les incites ont lancé des campagnes plusieurs années successives de plantation d'arbres, et ils ont planté entre deux années de suite, ils ont planté 1 million d'arbres entre les parents d'élèves et les élèves, ils ont planté 1 million d'arbres dans le désert. Bah, s'il n'y a pas un autre endroit de la ville qui était capable de faire ça à l'époque.
Ça fait penser aussi au Rojava, où les Kurdes, qui sont dans tous les pays où ils sont, qui sont une minorité opprimée, discriminée, qui ont été obligés de vivre dans les montagnes, pareil, pour exactement les mêmes raisons, pour pouvoir survivre. Et quand tout d'un coup, ils ont un lieu où ils peuvent faire à peu près ce qu'ils entendent, donc le Rojava, tout de suite, ils sautent toutes les étapes désagréables du capitalisme, etc. Et ils sont capables d'avoir une action collective infiniment plus intelligente. Et le Rojava, c'est pas une terre aussi difficile, soit que les milieux andins, soit que ce désert à côté de Lima, mais c'est pareil, dès le départ, au Rojava, les préoccupations environnementales sont tout de suite centrales. On fait pas on travaille pas, alors soit le peu d'agriculture qu'ils ont, soit le peu de construction qu'ils ont fait, à chaque fois tout de suite, on pense à l'environnement. Alentour. Je crois que là-dessus, c'est pareil, une fois que si on n'a pas tout le bagage stupide du capitalisme et du croissantisme, du productivisme, les solutions deviennent infiniment plus évidentes. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les gens font la même chose, sans nécessairement savoir ce que faisaient les autres alentour. Je doute que les Kurdes du Rojava aient jamais entendu parler de Villa El Salvador et réciproquement. On s'aperçoit que les mêmes choses se passent parce que il n'y a pas cette pollution intellectuelle.
Ah oui, c'est lié aux personnes qui, quelque part, reproduisent un petit peu le milieu d'où ils viennent. Mmh, mmh. Donc effectivement, quand tu viens de la campagne... Ouais, on va appeler ça la campagne, même si le désert, c'est de la campagne aussi, hein, quelque part. Mais une campagne florissante, tu vas pas avoir envie de mettre des murs. Tu vas mettre un petit peu de verdure, quand même. C'est quand même plus agréable aussi.
Je crois en plus qu'à Villa El Salvador, je ne sais plus si je vous avais dit ça l'autre fois, mais moi, quelque chose qui me semble important, c'est la rencontre. D'abord, c'est une rencontre générationnelle. La plupart des gens... Donc on est en 71, 72, 73, 71, on est face à une génération de gens jeunes à Villa El Salvador. Il n'y a pas, fort heureusement entre guillemets, il n'y a pas des vieux caciques des Andes, les vieux chefs qui ont freiné quoi que ce soit au nom de je ne sais trop quelle tradition, etc. Il y a des gens jeunes qui ont un gros bagage culturel et traditionnel, mais qui sont jeunes et qui sont ouverts à tout et qui sont ouverts à la ville. La ville n'est pas ouverte à eux. Bam ! Ça, c'est un premier problème. Et donc, eux, ça les oblige à réagir. Dans la ville qui n'est pas ouverte à eux, ils découvrent qu'il y a des gens qui sont, par contre, très ouverts. Des ouvriers qui sont syndicalistes, des ouvriers qui sont communistes staliniens, d'autres qui sont trotskistes, d'autres qui sont maoïstes, d'autres qui sont anarchistes, parce qu'il y a des, il y a beaucoup dans la zone centrale de Lima, les usines de la zone centrale de Lima, c'était bourré d'anars espagnols et italiens depuis le début du XXe siècle. Donc, il y a un foisonnement, et j'allais oublier, il y a les cathos de la théologie de la libération. Et tous ces gens-là, aucun de ces groupes n'est très nombreux. Mais par contre, ils sont très actifs et ils sont jeunes aussi. Le coup de chance, c'est que dans toutes ces bandes, pratiquement toutes ces bandes de gens qui sont déjà organisés politiquement ou syndicalement, la chance fait que les dirigeants sont des gens, eux aussi, assez ouverts. Ils sont ouverts à l'égard du monde amérindien, qu'ils ont d'ailleurs idolâtré dans leurs textes, etc., mais qu'ils connaissent pas vraiment, puis que là, ils découvrent, et puis ils disent, tiens, c'est pas mal, c'est intéressant, ces gens-là, c'est un machin. Et puis, normalement, ils sont très anticléricaux, mais ces petits gars de la théologie de la libération, ils sont plutôt assez sympathiques. La théologie de la libération est très ouverte au monde paysan, découvre beaucoup de choses, elle s'ouvre aux marxistes-léninistes de tout poil, ou je sais pas trop quoi. Et tout ce monde-là, c'est pas bisounours du tout. Mais tout ce monde-là s'écoute et s'entend. Et si on peut même rajouter qu'à l'époque, le gouvernement du général Velasco, supposé être progressiste, etc., lui-même, comme il a envie de calmer le jeu, puis il voit bien que s'il y a un laboratoire social énorme là-dedans, au lieu de freiner les choses, de les empêcher, il va même favoriser, il va pas donner spécialement de l'argent, etc., mais de temps en temps, il y a besoin d'aller, on va dire, je dis n'importe quoi, 50 camions de ciment, allez, si on libère 50 camions de ciment de la construction de je sais pas quelle route dans le nord du pays, ça va par là-bas. Et surtout, mettre en contact avec des architectes, puis en particulier un urbaniste, qui est un urbaniste dingue, qui a été énormément influencé dans ses travaux par les Yougoslaves, et qui d'ailleurs a vraiment marqué de son empreinte Vielsalvor, parce que ça a quand même un des travers, entre guillemets, de Vielsalvor, c'est la monotonie de sa conception urbanistique efficace, mais extrêmement monotone. C'est vraiment, c'est des pâtés de maisons en carré, machin, des avenues comme ci, des haut en bas, de droite à gauche, et chaque pâté de maison est exactement la même dimension, etc. C'est pas Venise, hein, voilà. Il n'y a pas eu le temps pour faire Venise, ni le cœur de Paris. Mais cet urbaniste, architecte, ben là, il se prend de jeu, et puis ils sont pleins comme ça. Il y a des artistes qui viennent, tout le monde vient. Bien des gens viennent et ont envie de participer à cette aventure dingue, mais qui avance à vitesse grand V.
À nouveau, cette tolérance et cette ouverture, on la retrouve justement dans les autres, dans beaucoup d'autres expériences, que ce soit à Christiania, que ce soit à Rojava. Oui. Là aussi, dans les deux cas, il y a des gens qui viennent de d'horizons extrêmement différents, et puis que les circonstances, le moment et leurs envies les contraignent à se parler et à s'écouter. Et la manière dont tu le décris est très juste, c'est pas nécessairement des bisounours. À nouveau, je parle que ce soit Rojava, que ce soit Christiania, mais les gens se parlent parce que il y a l'urgence des problèmes pratiques, et dans la collaboration pour résoudre les problèmes pratiques, eh ben on peut aller un cran au-dessus et admettre un peu plus de collaboration dans les autres discussions.
Oui, c'est la nécessité, en fait, qui fait naître tout ça, puisque, absolument, effectivement, il n'y a pas de fond. Donc, il vaut mieux collaborer et puis trouver les meilleures solutions avec entre soi pour y arriver.
Aujourd'hui,
parce que si quelqu'un est arrivé avec une valise pleine de fric, oui, il aurait pu imposer son.
Alors ça,
ce qu'il voulait.
Je crois que là-dessus, il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'à nouveau dans ces trois cas, justement, il n'y a pas eu à un moment d'arriver de quelqu'un avec des ressources tellement énormes que ce quelqu'un puisse prendre le pouvoir, que ce soit du fric ou l'aide d'un État extérieur, etc. Dans les trois cas. Les gens se sont débrouillés effectivement avec leurs propres ressources, et ça permettait que personne ne prenne le pouvoir. Il y a eu des tentations. À Christiania, il y avait le marché du shit où il y avait beaucoup d'argent. Au Rojava, très récemment, il y a eu les Américains qui étaient arrivés pour aider les Kurdes à dégommer l'État islamique. Ça aurait pu, dans les deux cas, tourner fort mal. Et puis, fort heureusement, ça n'a pas tourné mal du tout. Donc, ça aussi, c'est important, c'est qu'il faut que pendant longtemps, les gens restent sur leurs propres ressources, éventuellement avec un peu de bonne volonté de l'extérieur, comme tu parles des camions de ciment. De même, à Christiania, ils ont eu du bol quand même que l'État danois et la commune n'aient jamais sérieusement envisagé d'envoyer 50 camions de CRS danois dégommer tout le monde et virer tout le monde. Mais donc, ça, que les conditions soient pas si favorables que ça, paradoxalement, ça peut être une bonne chose. C'est ça que je veux dire. Parfois, des conditions trop favorables, eh ben, ça permet justement à des gens ou à quelqu'un de prendre le pouvoir. Et j'étais clair.
Oui, et je pourrais te dire que on peut, jusque dans les années 87-88, et on verra après pourquoi, mais jusque dans les années 87-88, on peut mesurer au succès de cette ville l'ampleur de la situation défavorable à laquelle ils étaient confrontés. C'est-à-dire que, effectivement, c'est le fait d'être confronté à des trucs aussi terribles que de créer une ville et créer de l'emploi, créer de l'éducation, avec rien et en plein désert, c'est vraiment compliqué. Alors, ils ne sont jamais restés, ça aussi je voulais préciser, ils ne sont jamais restés entre eux en se disant, nous, c'est nous qu'on va se débrouiller tout seul. Jamais. Je pense que ça, c'est la part, c'est une double part. Il y a l'influence syndicaliste de revendication, mais il y a aussi l'influence du monde paysan qui est qu'à un moment donné, quand ça va pas, ce que je disais tout à l'heure, hein, quand ça va pas, que c'est la famine, etc., on va au château, on va à l'hacienda et on réclame et on exige, quitte à se faire tirer dessus. Donc, systématiquement, mais pour l'eau, ça a été des bagarres extraordinaire, parce qu'ils ont, ils l'ont pas inventé. L'eau, il fallait bien qu'ils se branchent sur un système existant qui était celui de la ville de Lima. Et donc, ça a été des bagarres incroyables. Mais par contre, ils ont négocié avec l'État, avec les pouvoirs publics, l'accès à l'eau. Mais ce sont eux qui se sont débrouillés à mettre en place toute l'infrastructure. Et là, l'infrastructure, elle se passe comment? Et là, on est vraiment dans le monde andin, plus que dans le monde syndical, ou dans le monde politique des Mao, Trotsko, Stalino, je sais pas quoi. C'est que, on est, dans le monde andin, il y a le système, qui est un système hérité des Incas, mais renforcé par les Espagnols, que ça a bien arrangé, le système de la minca. C'est-à-dire, en fait, les Espagnols ont traduit par la faena, la corvée, qui existait ici dans le monde paysan jusqu'à la Révolution française. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et qui a existé en Ardèche jusqu'en 68. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est exonéré d'impôts. Ah, les nobles, les riches, les rois, etc., te font pas payer d'impôts, parce que d'ailleurs t'es trop pauvre et t'as pas les moyens de les payer. Mais par contre, on exige en contrepartie que, tu construises les ponts, tu entretiennes les routes, etc., etc. Et ça, c'est dans le monde en un, c'est une tradition qui est énorme, mais qui s'est transformée, qui s'est déclinée autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais c'est pas propre non plus au monde en un, c'est propre à bien des mondes paysans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux construire ta maison, t'es comme un nain si t'es tout seul pour construire ta maison. Enfin, une charpente, machin, etc., tu peux pas. Enfin, tu peux, mais t'es comme un nain. Il suffit que quand même tu claques dans tes mains et que tous tes voisins viennent, chacun avec son outil, et que les femmes se réunissent autour d'une gamelle et que chacun mette dans la olla, dans la gamelle commune, mette de quoi manger et qu'on fasse un barbecue dans des places. Hein? Ta maison, elle se construit plus vite. Et pour la ville, c'était pareil. Ils ont mobilisé, à une époque, c'était et pour les canalisations d'un côté, et pour la route, pas la première, mais je crois la troisième route centrale, il y avait 1100 bons hommes qui étaient mobilisés. Et ça rigole pas, c'est les gars, ils sont pas là juste pour rigoler, pour papoter. C'est les gars, ils sont là, ils bossaient hyper dur. Et à côté, les femmes faisaient à bouffer pour 1100 personnes. Et ceux qui venaient pas, on n'allait pas les fusiller. Ceux qui participaient pas, ils n'étaient pas fusillés. Par contre, fallait qu'ils payent la bouffe. Ouais.
Donc ça les incitait. Voilà.
Et c'était
à venir plutôt.
Bien sûr.
J'avais pas trop de.
Tu parles, bien sûr. Donc voilà, c'est là tu déplaces des montagnes. L'avantage de cette ville par rapport à d'autres, parce que pratiquement tous les bidonvilles de Pérou, Bolivie, Chili. Bon, Argentine, c'est un peu différent, mais Pérou, Bolivie, Chili, Équateur. Les histoires sont assez proches les unes des autres. La particularité de Villa El Salvador, c'est que tout s'est fait en un temps, en un coup, et avec rien au départ. Les autres bidonvilles, la plupart des autres bidonvilles de Lima, de Quito, de La Paz, se sont construits par petits groupes de maisons. 100 maisons par-ci, 150 maisons par-là, 300 maisons 2 ans après, etc. Dans un joyeux ou pas joyeux, d'ailleurs, bordel. Là, Villa Salvador a été planifié dès le premier jour par les gens qui l'ont bâti en disant, ils ont dessiné, on ne cesse de répéter à Villa Salvador, on a dessiné notre ville sur le sable du désert. Le dessin était là, la maquette était là. Donc, cette ville a dès le début eu une cohérence urbanistique faite de briques et de brocs d'une certaine manière, mais avec une logique implacable et donc une rationalité totale. Ce qui n'était pas le cas dans bien d'autres endroits de la ville, y compris de la ville coloniale. Donc ça a été c'était d'une puissance incroyable.
Dans les bidonvilles, en fait, c'est des lieux de relégation, c'est surtout. Alors que là, on leur a donné un terrain où ils ont pu effectivement peut-être davantage s'organiser.
On les a relégués aussi.
Mais il y avait rien.
Mais il y avait rien.
Ils ont pu s'organiser.
Le paradoxe à nouveau avec Christiania, c'est qu'à la fois à Christiania, il y avait infiniment plus, mais par rapport au reste du Danemark, ils se sont sentis comme si il y avait rien. À Christiania, il y avait une caserne, donc il y avait des vrais bâtiments avec des vrais murs, avec des vraies rues. Il y avait quand même infiniment moins de choses à créer. Mais par rapport au niveau de confort du Danois moyen, bien évidemment, quand les christianites sont arrivés là-dedans, pareil, pour eux, psychologiquement, c'était comme s'il n'y avait rien. Et ce que tu dis sur la cohérence, elle était déjà là dans Christiania, puisque cette caserne, elle avait déjà un plan, elle avait déjà des rues, elle avait même un petit pont. Et ça aussi, mine de rien, je pense que ça aide. Ce mélange étonnant entre table rase d'un côté, et puis malgré tout, quand même, on part pas totalement à l'aventure. Ce mélange-là semble être extrêmement efficace.
Qué bonito es un papango.
Vous êtes sur Radio Libertaire, à l'écoute du monde merveilleux du travail. Aujourd'hui, nous parlons de notamment Villa El Salvador, une ville péruvienne, avec Jean-Michel Rodrigo, qui est le réalisateur d'un film documentaire qui a été consacré à cette ville, et Jean-Manuel Trémont, qui lui a vécu à Christiania, au Danemark. Rien à voir, mais il est là, c'est notre consultant, c'est notre...
C'est rigolo d'avoir quelqu'un qui a connu une énorme expérience autogestionnaire et quelqu'un qui en a connu une infiniment plus petite, mais les deux ont en commun quelque chose, que ça fait depuis 1971 qu'elle perdure.
La volonté des populations de faire perdurer le...
On en est à 52 ans quand même dans les deux cas. Hein.
Alors, tu voulais savoir.
Oui, moi,
J'ai entendu dire que tu voulais savoir d'où tirer... ces gens-là, leurs matériaux de construction. Exactement. Et ça, c'est une excellente question.
Tu me remercies de l'avoir posée.
Je te remercie de l'avoir posée. Alors, dans le désert, un des problèmes majeurs qu'il y a eu dès le début, c'était l'impossibilité absolue de construire en dur avec du sable, qui n'est par principe pas dur, voilà. Et qui ne sert même quasiment à rien, parce qu'en plus, le sable est tout près du Pacifique. Le Pacifique, en fait, est à, on va dire, aller à 500 mètres à vol d'oiseau des gros quartiers centraux de Villa. Mmh. Il y a une énorme dune. Derrière la dune, il y a le Pacifique. Donc, le sable, en plus, il est un peu salé. Et le sable salé, tu es un constructeur né. Ah ben, tu sais bien que le sable salé, c'est pas bon.
Je suis petit-fils de maçon.
Pour le béton, pour le ciment.
On apprend tous les jours
c'est
sur Radio
Libertaire. Salpêtre.
Salpêtre.
Ben ouais, oui. C'est pas bon. Et puis, de toute façon, au point de départ, tout ça est beaucoup trop cher. Et de toutes les façons, au point de départ, les habitants, les gens venant des Andes, ont l'habitude de construire avec des briques en terre. Construction en terre. Mmh. Là-bas, c'est... Voilà. Sauf que là où ils sont, ils peuvent pas. Sauf que la route centrale... vous voyez, Lima, c'est une ville qui est en bord d'océan. Il y a une route qui est la Panaméricaine qui va du nord au sud du pays, qui vient d'Équateur et qui va au Chili, qui longe la côte. Et il y a une autre route qui fait un T avec cette route le long du Pacifique. Une route qui fait un T, qui monte dans les Andes et qui va sur les hauts plateaux, des Andes, de ce qu'on appelle les Andes centrales. Au point de départ de cette route, il y a deux villes, qui s'appellent Ate et Vitarte, qui sont des villes ouvrières de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Là, il y a des dizaines de ladrieras, c'est-à-dire d'usines de fabrication, d'usines et de fours de fabrication de briques en terre. Alors, pas de briques à la traditionnelle comme dans les Andes, où simplement on mélange la terre avec de la paille et qu'on fait sécher au soleil. Non, là, c'est cuit, c'est voilà. Et donc, ça a fourni énormément de travail aux gens de Ate Vitarte, et là ça a augmenté simplement le volume des transports entre ces deux zones-là, et c'est de cette zone ouvrière industrielle qui était en crise qui est venue une bonne grosse partie des matériaux
que les gens devaient se payer.
Donc je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, de toutes les façons pendant des années les gens ont continué à bosser pour une bonne partie d'entre eux, on continue à bosser en ville. Mais quand même, peu à peu, se créer des petits restaurants. Il y avait les commerçants, il y avait les gens de la bouffe.
On crée leur propre économie.
Voilà, il y a tout un tissu économique qui, peu à peu, voilà. Mais ça, c'est la réponse à... Enfin, je ne sais pas si elle te... Si ça, voilà. Les artisans du centre, là, de la zone centrale, ont beaucoup apprécié. Mais en fait, ils le faisaient aussi pour les... Enfin, c'est vraiment une zone qui produisait de ça, puisque tous les bidonvilles qui s'étendaient le long de la côte ne pouvaient pas faire ça.
Et ça s'est fait par... Enfin, comment dire? Parce que s'ils n'ont pas de sous, hein, ils arrivent. Tu me dis que ça s'est construit assez rapidement.
Non. Donc, alors, maintenant, parce qu'il y a des étapes, il y a des étapes. Alors, allons-y. Les étapes. Première étape. La toute première étape. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont construit les écoles. Hein. Ils achetaient ce qu'on appelle des esteras, c'est-à-dire des toits, des murs en paille tressée. Mmh. C'est de la paille tressée. C'était, voilà. Ça pouvait durer. Bah, si plus tu travaillais, moins ça durait. Et moins tu travaillais, moins tu gagnais de l'argent et plus ça durait. Parce qu'en fait, la banque classique du monde paysan, c'est j'ai 3 francs 6 sous, soit je suis dans les Andes et j'achète une vache, soit je suis à Villa El Salvador et j'achète 15 briques plus un sac de ciment. Je le mets devant mes murs en paille. Et puis le mois prochain, j'attends et là j'achète. En plus, j'ai vu que les prix étaient bons. Hop, j'achète de la ferraille. Et je mets la ferraille, elle va rouiller un peu, on s'en fout. Et puis, etc., etc. J'accumule les matériaux jusqu'au moment où je me dis, tiens, je peux construire tous les murs de mon premier étage. Alors, je construis les murs de mon premier étage. Parmi les fondateurs de Villa El Salvador, il y avait des utopistes qui étaient encore beaux, qui allaient beaucoup plus loin dans leur envie de faire une ville différente. Et ils ont tenté de construire en bois. Et d'inciter les gens à construire en bois. Déjà par souci écologique, entre guillemets, ou une influence européenne de l'époque, etc. Mais le monde paysan n'a absolument pas été séduit par ce truc-là. Le monde paysan, pour eux, dans la construction, le bois, c'est pas terrible, c'est un truc qui crame. On y va. Ils n'ont pas fait ça. Ça n'a pas marché. Il y a eu, je ne sais même pas s'il y a eu au total une dizaine de maisons en bois, dont une, qui appartient au premier maire de Villa Salvador, qui lui était partisan de ça, mais voilà, ça n'a jamais marché. Mais voilà, le gars, il est camionneur, et puis il décroche un contrat extraordinaire pendant un an, il fait 3 allers-retours avec Santiago du Chili, avec un gros camion, et il gagne l'argent suffisant pour mettre de côté et pour construire les murs de sa maison. Le voisin, lui, il vend des stylos billes sur le bord de la route et bah, il va mettre 5 ans. Il n'y a pas de règle.
Tu voulais raconter une anecdote
Voilà, oui. À nouveau, c'est super intéressant les différences entre les deux. Pour Christiania, à nouveau, ils avaient déjà des bâtiments élevés et qui, à l'origine, avaient été bien construits, puis dont on avait enlevé des tas de choses. Donc, comment est-ce que était la situation en 1971 et en 1972 ? Il y a bien des murs, il y a bien un toit, il n'y a plus beaucoup de fenêtres, il n'y a plus beaucoup de portes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... il y a guère de plomberie. Et ce que vont faire les christianites, c'est qu'ils vont comprendre un truc, c'est qu'ils sont dans une ville moderne où on construit du neuf à tour de bras et où par conséquent on vire, quand on démolit, eh ben les démolisseurs, ça les emmerde tout ce qu'ils trouvent. Et tout simplement, eh bien, va se créer un collectif de gens qui vont aller sur les chantiers de démolition, allant voir les démolisseurs en leur disant, bah, écoutez, nous voilà, on vient travailler en extra, gratos, en échange, on prend les portes, ou on prend les fenêtres, ou on prend toute la plomberie, ou on prend tous les circuits électriques, et on vous garantit que en 48 heures, on va avoir fait ça. Et donc c'était bon à la fois pour les démolisseurs et pour les christianites, et très vite s'est créé, alors c'était un endroit absolument magnifique, c'était dans un grand hall, alors qui s'appelle justement le hall vert, un truc qui doit faire, je sais pas moi, 60 mètres de long, 70 mètres de long, quelque chose comme 15 mètres de haut ou 20 mètres de haut, un grand hall immense, et dans lequel quand on pénètre, alors il y a le coin des éviers, il y a 200 éviers, le coin des chiottes, 150 chiottes, le coin des portes, 80 portes, le coin des fenêtres, le coin de ceci, le coin de cela, et il y en a une quantité absolument démentielle. Et évidemment, les prix pour acheter ces trucs-là, c'est 10 fois moins cher que les équivalents neufs qu'on pourrait trouver. Mais c'est souvent en très bon état, et en tout cas suffisant pour les standards de Christiania. Et donc là-dessus, il s'est passé un peu le même phénomène, que un, ça permettait d'approvisionner Christiania en éléments pour refaire la plomberie, l'électricité, les portes, les fenêtres et compagnie, et en même temps, ça donnait du travail à beaucoup de gens. Ce truc-là, il y avait... Oh, il y a en moyenne entre 15 et 20 personnes qui y travaillent en permanence. Je rappelle que Christiana, c'est juste 1000 personnes. Donc 15 et 20 personnes dans un collectif, c'est quand même très important. Et ça a fonctionné très bien, ça continue à fonctionner super bien. Et ils ont donc fait deux choses à la fois. Ils ont fait ça pour la construction, et en même temps, c'était le même collectif, en gros, qui s'occupait de la récupération des ordures. Alors, ils appelaient ça le garbage gang, donc le gang des éboueurs. Et c'était la même chose, ça permettait de vérifier et de promouvoir tout le recyclage dans Christiania. Et là, à nouveau, on voit que ce genre de solution, ça fonctionne très très bien. Et que ça permettait de donner du boulot. Et à nouveau, je rappelle qu'à Christiania, l'attitude de la plupart des collectifs envers le boulot, c'était on ne cherche pas le profit. Quand on commence à gagner plus d'argent, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute plus de monde. Soit qu'on diminue le nombre d'heures de travail pour tout le monde, soit que on veut donner plus de travail à plus de monde. Et dans le cas, par exemple, justement, de ce collectif de récupération de matériaux, l'idée était, entre autres, de donner plus de travail à plus de monde. Alors, incidemment, il y avait un truc rigolo, c'est que tant le gang des éboueurs que ce collectif de récupération, quand moi je les ai interviewés pour mon bouquin, je m'attendais un peu à des histoires de gens qui étaient fils d'ouvriers, fils de maçons. C'était des anthropologues, des ethnologues, des sociologues. Enfin, il y avait des logs de partout et je cherchais désespérément un type ou une nénette qui aurait eu une jeunesse manuelle, qui aurait eu des grosses mains avec des gros ongles et des cales dans les mains. Eh ben non, il y avait quasiment aucune personne manuelle. C'était tous des intellos recyclés, mais qui faisaient du boulot absolument remarquable et qui me disaient, ça peut être extrêmement intéressant intellectuellement, parce qu'ils me disaient, quand tu montes dans la charpente d'un immeuble en train d'être démoli, que c'est un immeuble relativement élevé, mais t'es Spider-Man. C'est, tu voles, tu entres dans un univers où tes repères topographiques ne sont plus du tout les mêmes, parce que ta notion de l'équilibre est plus la même. Et puis c'est pas facile, parce que tu vas enlever une poutre. Maintenant tu vas enlever une poutre alors que tu es à 45 mètres de haut, et qu'il faut que tu réfléchisses à ce qui se passe quand tu vas enlever cette poutre. Est-ce que le reste de la charpente va pas s'écrouler? C'était très intéressant de les entendre parler de leur métier.
Juste un tout petit rajout pour montrer que les choses peuvent se ressembler, et même si elles diffèrent beaucoup. Il y a un lien effectivement entre la construction de Villa El Saor, mais la construction des quartiers populaires en général, avec la construction des quartiers de la ville ancienne, de Lima ancien, en voie de modernisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont rasé, d'ailleurs, à mon avis, très bêtement, des magnifiques quartiers coloniaux, architecturalement parlant, je veux dire, et pour construire des immeubles qu'on trouve ici à Créteil, peu importe, sans grand intérêt. Mais qui c'est qui construisait? C'est des gens qui habitaient Villa El Salvador ou qui habitaient les bidonvilles. Pendant tout le temps de la construction, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux dormaient sur place. Parce que ça leur permettait d'économiser le temps de transport, etc., etc. Ils dormaient sur place. En plus, on leur demandait souvent de veiller au chantier pour pas que des voleurs puissent venir se servir.
C'était tentant.
Ils étaient d'accord. Alors, je dis pas que tous, loin s'en faut,
mais c'était tentant.
Donc là, quand t'as pas beaucoup d'argent et puis tu vas traîner une dizaine de clous, un petit peu rouillé, un petit peu tordu, mais ou pas, tiens, ceux-là, ils sont de bronze, pareil. Ça aide. Donc on ne peut pas... Alors, je suis même pas sûr que qui que ce soit ait fait une étude approfondie du phénomène, mais c'est l'évident. Enfin, c'est l'évident, c'est cette bonne guerre. Ça s'appelle la récupération.
De toute façon, ça se fait...
Partout, c'est de la perruque. C'était une perruque développée, une grande perruque
ceux qui développée. Ceux qui font, ils n'ont pas forcément la nécessité de...
C'est le superflu démentiel de nos sociétés, et on s'aperçoit qu'il y a des tonnes de gens qui peuvent vivre sur le superflu de nos sociétés, que ce soit les gens qui vont chercher dans les poubelles, etc. Christiania là-dessus, enfin, ils ont à nouveau, le Danemark, c'est quand même l'une des sociétés les plus, entre guillemets, c'est juste pour utiliser le mot que les autres utilisent, avancées dans le monde. Donc ça crée un superflu absolument stupéfiant. Et Christiania l'a su extrêmement vite et a pu en utiliser des quantités extraordinaires. Donc, moi, je, un petit bidule, là à Paris, je vis dans les quartiers chics de Paris. Quand on se débarrasse de quelque chose, alors la municipalité n'est pas d'accord, mais dans ce quartier, franchement, c'est efficace. Il suffit de le mettre dans la rue. Une heure, deux heures après grand maximum, c'est déjà parti. Alors, c'est pas les habitants. Hein, c'est des gens qui viennent de loin, des banlieues, etc., qui tournent, parce que constamment, il y a des trucs déposés sur les trottoirs et qui sont immédiatement réutilisables. Ou alors, il suffit juste de réparer un petit bidule, un petit machin. Et ça, mais il y en a tout le temps. Moi, je vois juste en dessous de chez moi, allez, chaque semaine, je vois quelque chose de déposé. Et c'est curieux, une heure après, c'est parti.
Ça...
Ça nous a coupé le...
Ah ouais. Non, en fait, ça m'a coupé. Je me dis, peut-être, moi, je cherche un nombre de trucs pour m'installer là. Peut-être que j'aurais intérêt à aller dans son quartier
complètement
chiner de façon informelle le soir.
Je crois qu'on peut aller dans tous les quartiers,
ouais.
Mais il faut se lever tôt quand même.
Oui, parce qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, il y a plein de monde.
Ah oui,
qui me lève tôt le matin, je peux dire qu'il y a déjà du monde.
Non, moi je vois tourner des gens dans des camionnettes et puis qui regardent et visiblement ça paye, parce qu'il y a quand même énormément de choses qu'on vire et qui peuvent être extrêmement utilisables. Et puis alors, à nouveau pour les... puisqu'on est à Paris, j'imagine que tous les deux, vous avez vu que juste à côté du marché Opus, alors le marché Opus qui est devenu un marché d'antiquaires pour décorateurs américains qui travaillent pour des milliardaires, mais juste à côté, il y a ce vrai marché aux vraies puces, où vous avez tout un tas d'immigrants divers et variés qui vendent des trucs qui sont abominables pour les standards normaux, entre guillemets, des Français normaux, entre guillemets, et qui vendent des chaussures usagées, tout un tas de bidules. Et il y a, en moyenne, il y a 300 personnes, 400 personnes qui sont là sous les ponts du périph, hein, sous les passerelles du périph, à vendre tous ces trucs-là. Et visiblement, ça tourne constamment.
Ouais. Donc, via El Salvador, oui. On a connu ce genre d'économie informelle.
C'est pas connu ce genre d'économie informelle. L'économie péruvienne, l'économie des villes, des campagnes aussi d'ailleurs, mais l'économie des villes, sortie de l'agriculture, est aussi informelle que d'ailleurs l'agriculture en tant que telle. Et même encore aujourd'hui, ça reste, alors que c'est un pays qui a vraiment beaucoup changé, le poids du secteur informel est énorme. Et donc effectivement, dans l'informalité, tu pourrais dire, de manière un peu provocatrice, un des rares avantages de l'informalité, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que, les mecs, ils sont obligés de s'en sortir, et donc c'est la démerde. Donc effectivement, il faut pas oublier non plus qu'à l'époque, c'est moins vrai maintenant, mais ça reste quand même. C'est les hommes bossaient dans la construction, etc. Mais les femmes, elles bossaient où? Elles bossaient beaucoup comme employées domestiques. Donc voilà, d'où d'ailleurs le côté du préjugé incroyable de classe sociale et de racisme, qui est que bien évidemment tout riche de Lima qui a un, deux, voire trois domestiques à la maison est toujours en train de les soupçonner de lui piquer des trucs. En fait, il pique pas grand chose, il pique rien même d'ailleurs, il récupère les trucs qui seraient jetés, qui à moitié cassés, etc. Mais voilà, c'est tout un système. C'est l'informalité. Enfin, c'est voilà, l'informalité, elle commence quand t'as juste deux bananes et un bout de pastèque à vendre sur ton tissu qui vient des Andes et que t'as intérêt à vendre parce que si tu vends pas, tu manges pas ce soir. Donc, d'où ce que je disais tout à l'heure, le résultat, c'est que pendant la période du Covid, on est quand même des années, on est 50 ans après le début de Villa Salvador. Si le Pérou a été aussi touché par le Covid, c'était un des pays les plus touchés au monde en proportion du nombre de morts par rapport au nombre d'habitants, patata, d'ailleurs. Depuis, on nous abreuve des statistiques, des machins. Alors, si on rajoute le nombre de pluies torrentielles plus la canicule, hein, on en perd son latin. Mais, toujours est-il qu'en nombre de personnes qui sont mortes du Covid, il y a eu beaucoup de monde. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu au Pérou, et à Lima en particulier, il y a eu un confinement drastique. Ils sont habitués, hein, les gouvernements péruviens étaient habitués au couvre-feu, aux interdits de sortir, etc. Mais le couvre-feu et l'interdit de sortir, ça marche pas dans la journée, dans un pays où il y a autant de gens dans le secteur informel. C'est eux, s'ils sortent pas dans la rue pour vendre, pour travailler, pour traficoter, dans le bon sens du terme,
Pour survivre,
mais ils meurent. Donc, ils meurent de faim. Donc là, les gens sortaient massivement. Et comme en plus ils avaient absolument pas accès aux soins, ce qui était un autre problème, et ben voilà, ils l'ont payé cher. Mais c'est la preuve récente là que le secteur informel reste quelque chose d'extrêmement fort dans l'économie. Alors après, on pourrait en faire des paquets. C'est par ailleurs dans les pays comme le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, et malheureusement maintenant dans quasiment toute l'Amérique latine, le secteur informel, il est d'autant plus renforcé que ce sont des pays qui ont au plus haut niveau une économie informelle, une économie parallèle, une économie illégale de transformation et de blanchiment de l'argent de la CAM sur tout le continent. Donc ça, alors là pour le coup ça ruisselle. Ça alors là c'est des économies. Non mais c'est des économies illégal informel qui ruisselle. Donc je donne un exemple. Alors là c'est pas à Lima, mais dans les villes de province à un moment donné, les gens se demandaient comment ça se faisait que tout d'un coup dans tel endroit les mecs avaient autant besoin dans les petits commerces autant besoin de papier hygiénique. Et donc il y avait rupture de stock, il y avait et ça se transformait en trafic. Donc il y avait de plus en plus de camionneurs avec du papier hygiénique de plus en plus cher, des petits commerçants qui vendaient, etc. Et puis à un moment donné, ils ont fait les flics ont fini par comprendre. C'est une période, c'est un moment donné où on se servait du papier hygiénique pour sécher ce qu'on appelle la pâte base qui est le passage à l'intermédiaire entre la coca, la feuille de coca et la cocaïne. C'est transformé en pâte base et ça a besoin d'être séché. Bon ben voilà, et ben le papier hygiénique c'est ce qui séchait la pâte base. Donc tout à coup, voilà, ton économie informelle de trafic, etc. Sans parler de la CAM elle-même, le procédé pour la produire a une influence non négligeable sur l'économie informelle et donc sur le travail de plein de gens. Et moi, la personne qui m'a raconté ça, ça remonte à un certain nombre d'années, enfin, 6 ans, c'est pas si vieux que ça, c'était en bordure de forêt amazonienne, et j'ai dit, mais vous m'avez l'air de bien connaître le phénomène, etc. Elle dit, bah, on a tous travaillé un jour ou l'autre dans un labo, un laboratoire de transformation. Oui,
monsieur,
elle dit, ah oui. Elle dit, bah, ici, sinon, c'est le tapin, et les deux seuls boulots réguliers qui nous garantissent pour les femmes, qui garantissent un salaire, c'est le labo ou le tapin. Voilà, ben j'ai choisi le labo. Mmh. Et ça m'a permis de me payer un resto. Elle a un petit resto,
Mais quand même.
Voilà.
Alors là-dessus, le mot superflu m'a.
Alors attention, excuse-moi. Ne conservez pas dans votre tête le fait que Villel Salvador serait le produit dérivé.
Et la bouffe faisant la coquille.
Voilà, c'est pas le truc.
Non, je voulais juste rajouter un truc là qui est à nouveau extrêmement local sur Paris. Et quelque chose qui n'existait absolument pas quand j'étais petit. Eh bien, ce sont maintenant les magasins de déstockage alimentaire. C'est-à-dire ces magasins qui vendent des produits soit officiellement périmés, soit qui vont être périmés le jour même ou le lendemain ou dans 2 jours. Je suis stupéfait qu'ils soient arrivés dans Paris. Alors non, ils sont arrivés pas dans le 16e ou dans le 17e, mais c'est plutôt vers Aligre d'un côté. Et moi, je vais souvent aussi à celui qui est dans le 18e, donc rue Ordener. Mais c'est stupéfiant. Ce sont maintenant des magasins.
C'est mauvais jeu de mots.
Ben oui. C'est noir de monde. Et les produits qu'on vend là-dedans. Alors, j'ai commencé à comprendre qu'il y a trois sortes de produits qu'ils vendent là-dedans. Ils vendent, un, les produits qui sont effectivement soit officiellement périmés, mais qui sont encore tout à fait consommables, soit qui vont l'être. Ensuite, c'est des produits qui ne sont pas vendus parce que, par exemple, c'est des trucs en langues étrangères. Et les gens les ont pas achetés. Par exemple, il y a eu un magasin où il y en a encore, il y a des lessives espagnoles. C'est tout en espagnol. Donc visiblement, personne ne les a achetés. Seulement, mine de rien, quand tu as maintenant un bidon de 5 litres de lessive pour 1 euro, jackpot. Et puis éventuellement, les vrais invendus. Mais c'est sidérant tout ce qu'il y a. Et surtout, le monde qui y va. Et nous sommes à Paris.
Donc un lieu qui est censé être, être riche et puissant. Et ça, c'est quelque chose, à la fois, je trouve ça très bien, bien entendu, mais en même temps, ça prouve à quel point la misère est en train de s'installer en France à très grande vitesse. Donc c'était pas exactement le sujet de l'émission, mais je pense que c'était important de le dire.
Mais après, il faut faire. Enfin, en plus, on parle de périodes qui sont différentes. À l'époque, avec El Salvador, il ne risquait pas d'y avoir, dans aucun bidonville de Lima, du Pérou, même du Pérou tout entier, ou des pays andins. Il n'y avait pas de gens qui allaient se poser la question sur les produits périmés ou pas périmés. Ils disaient, parce qu'en fait, d'abord, les gens avaient assez peu accès des quartiers populaires, avec ces salaires-là, avaient assez peu accès aux produits manufacturés, aux produits finis. C'était cher. Mais surtout, après, quand tu as eu des crises alimentaires gigantesques au Pérou, en fait, c'est le monde paysan qui a pris le dessus. C'est-à-dire que les gens qui habitaient encore en ville, les gens pauvres qui habitaient encore en ville, étaient beaucoup plus encore dans la mouise que les gens des quartiers populaires, parce que dans les quartiers populaires, les paysans qui étaient encore très paysans, eux, ça leur paraissait normal de se mettre à 30 ou 40, d'affréter un camion et de partir dans les montagnes à 50 kilomètres de là et d'aller négocier en direct avec le monde agricole, le monde paysan de là, et de leur acheter 5 tonnes de patates et 3 tonnes de carottes et 50 kilos d'oignons. Et ils revenaient. Et là, ça servait non pas à se partager et à revendre, ça servait à fournir ce qu'on appelait los comedores populares, qui étaient les cuisines collectives de quartier. Chaque quartier, les femmes avaient mis en place un système de cuisine collective qui permettait qu'avec des achats en gros, elles faisaient bouffer pour tout le monde. Là, c'est une des premières fois où d'ailleurs, la ville de Lima, qui était passée aux mains de la gauche, une gauche, je ne saurais même pas dire comment, mais une gauche... D'abord, c'est une union de la gauche, d'ailleurs, c'était effectivement une union de la gauche, fortement influencé par des gens à la chilienne des Allende, des petits Allende, hein, voilà, des gens dont on peut ne pas partager les idées, mais qui sont pas des saloupiaux, c'est des gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui essayent de voilà, il y avait toute une bande de, à la mairie, il y avait toute une bande de gens avec certains très bien qui se sont battus en copiant d'ailleurs les histoires de Bandes France dans les années 60 ou 55, ou je me souviens plus.
Le lait pour tout le monde.
C'est-à-dire que les femmes, les fédérations de femmes et les fédérations de cuisine collective des quartiers populaires, en particulier Villa El Salvador, ont pris leur bâton de pèlerin, mais ils ont fait 30 bandes, 15 bandes, 18 bandes, etc. Elles se sont retrouvées à la municipalité de Lima, au palais présidentiel, en exigeant un verre de lait pour tous, le matin, pour chaque enfant, le matin. Ce qui fait qu'il y a eu une fameuse campagne qui a duré un temps certain, qui était 1 million de verres de lait étaient distribués tous les jours dans les écoles de Lima et de sa région. C'était pas négligeable. Il y a des gens qui voulaient, Villa El Salvador, ça gambergeait, tous ces trucs-là. T'obtiens quelque chose, hop, t'es en train d'essayer de réfléchir à aller plus loin. À l'époque, il y avait des gens déjà à Villa El Salvador qui réfléchissaient et qui disaient, mais ce lait-là, qui était quand même du lait en poudre, naze, qui venait de je sais pas où, enfin, peu importe, c'était très bien qu'il soit là, mais enfin, c'est quand même du lait en poudre, naze, pas très nutritif, etc. Mais tout ça, c'est pas grave. C'est la plupart des gens des Andes, l'immense majorité des habitants des Andes, ont un problème de digestion avec le lait. Ils sont assez, je sais pas, il y a un nom.
Intolérants au lactose.
Ils sont intolérants au lactose. Donc, l'habitude dans les Andes, alors plus t'es dans les zones pauvres et reculées, et plus l'habitude s'est maintenue, plus tu échappais au lait en poudre et pour avoir tes trucs traditionnels débiles, entre guillemets, les gens prenaient de la kiwicha. Kiwicha, quelque chose un peu comme la quinoa, en beaucoup plus petit. On en a plein les jardins, d'ailleurs, ici, mais celle-là, il vaut mieux pas la manger. Ça s'appelle l'amarante. L'amarante, les petites graines d'amarante, etc., contiennent à peu près tous les ingrédients nécessaires pour le genre humain enfant. Je viens de taper dans le micro. Pour le genre, personne se tape, hein, ne vous inquiétez pas.
C'est pas vrai. On est tous en train de se taper dessus.
Ouais. Voilà. Ils ont pas réussi parce que justement la kiwicha, la production de kiwicha avait été tellement rendue au niveau quasiment zéro à cause de propagande complètement voilà, enfin contre tous les produits traditionnels, etc., que de toute façon il n'y en aurait jamais eu assez pour alimenter l'image. Mais la démarche n'était pas idiote. Et maintenant, quand même qu'il y a eu des gens qui se sont battus et qui, etc., et ben la kiwicha est reproduit ce produit à nouveau de manière assez significative au Pérou et en Bolivie, et elle est à nouveau consommée, quoi. C'est à nouveau consommée. Super dur, parce que je me souviens même plus pourquoi je vous racontais tout ça. Ah oui, pour aller chercher dans les Andes, tac tac, les camions, poum poum, la patate, voilà. Ça a été ça. Ça a été ça. Capable d'affronter aussi ça, d'affronter. C'est quand même assez incroyable qu'il y ait des gens qui sont en train de crever la dalle. Littéralement, les années de grande crise alimentaire au Pérou, c'était vraiment une période de famine. Mmh. Et les gens ont affronté ça en se serrant les coudes et en faisant de la bouffe collective, comme ils ont toujours fait dans les villages des Andes. On laisse pas, dans les villages des Andes, on laisse pas un papy ou une mamie à côté, ou des gamins à côté, crever de faim quand on a la gamelle pleine. On partage.
Faut rappeler que dans toutes les cultures qu'on pourrait appeler tribales, enfin toutes les cultures de chasseurs-cueilleurs par exemple, la règle est valable pour, je connais quasiment pas d'exception, le chasseur qui a tué un animal et qui ne consomme jamais le gibier lui-même. Il ramène le gibier dans la tribu et il est en général servi en dernier. Et il y a toujours une distribution absolument à tout le monde. Et effectivement, dans toutes ces tribus de chasseurs-cueilleurs, on ne laisse jamais qui que ce soit crever de faim. S'il y a de la bouffe, on partage. Et ça, c'est vraiment une observation qui est... alors, c'est vraiment un classique de toute la littérature ethnographique. Dans toutes ces cultures-là, c'est une règle absolue. Quand il y a de la bouffe, le premier réflexe, c'est on la partage. Même s'il n'y a pas grand-chose, tout le monde quand même, et même des gens donc, qui n'ont pas participé à la chasse, soit qu'ils soient trop vieux, soit que c'est des flemmards, soit que pour une raison ou pour une autre, ils ne pouvaient pas, tout le monde reçoit quelque chose. Ça, c'est absolument... moi, d'ailleurs aussi, pour cette histoire de la bouffe, j'ai personnellement mieux compris l'efficacité de l'action collective quand j'ai justement participé à la cuisine pour un très grand nombre de gens. Alors, je raconte dans mon bouquin un truc pareil. Bon, au Danemark, il y a la religion de Noël. Alors, Noël, c'est beaucoup plus fort que le christianisme. C'est tout l'ancien paganisme danois qui est là. Et évidemment, dans une société moderne, à Noël, il y a des tas de gens qui sont tout seuls. Donc, Christiania, se rendant compte de la chose, étant pas chrétienne, a décidé de créer le Noël des 100 Noël. Donc, le Noël des 100 Noël, c'est quoi? Ben, c'est dans le plus grand hall de Christiania. Alors, c'est un truc gigantesque. Là le grand hall de Christiania, doit faire 100 mètres de long. Pareil, 15-20 mètres de haut, enfin il y a vraiment de la place. Et donc il y a 2000, 3000 personnes qui arrivent, et on leur sert du porridge. Avant le porridge, on leur sert du travers de porc grillé, puis on leur sert du porridge. Et moi, une fois, je me suis donc inscrit dans l'équipe qui cuisinait le porridge, et je n'oublierai jamais ceci. Nous étions trois mecs, deux bonnes sœurs qui étaient venues aider et qui, fort gentiment, n'ont pas fait un gramme de propagande. Et l'idée était la suivante. Nous, les mecs avec nos gros bras, on était les types qui remuaient le porridge dans des cuves qui contenaient à peu près, vous êtes prêts, une tonne de porridge. Une tonne. Donc c'est pour ça qu'on était là. Et alors, pour remuer, comment on fait? Quelle cuillère existe pour remuer une tonne de porridge? Des rames. Donc, on avait pris des rames de canaux, et donc on était trois mecs avec chacun sa rame, c'était épuisant, et on touillait, et puis quand le porridge était prêt, on le versait, et là, c'était les bonnes sœurs qui le séparaient, qui le mettaient dans des trucs un peu plus petits, qui faisaient quand même 30 kilos, et ça partait dans le hall, et là, à la louche, on a servi le truc. Et je me suis rendu compte qu'on était donc, on était cinq personnes, et on a pu cuisiner du porridge, pour quelque chose entre 2000 et 3000 personnes. Et là, je me suis rendu compte que l'action collective, mine de rien, ça peut être extraordinairement efficace, et que nourrir les gens, quand on, c'est obscène qu'il y ait des famines dans l'histoire de l'humanité. C'est absolument obscène. C'est toujours, toujours, toujours social. Parce que, en réalité, quel que soit le lieu, à moins d'être une tribu de bédouins qui s'est perdue dans le désert, il y a toujours de la bouffe quelque part. Et donc les famines sont toujours, toujours dues à un problème social.
Non, mais ce qu'il faut... Je quitte le Danemark, je réintègre le Pérou.
Eh oui. Non, mais on voyage, dans Radio Libertaire, il faut savoir, on voyage.
Préciser. C'est des trucs qu'on a tendance à oublier. Il faut préciser, à l'époque, qui n'était pas forcément une époque mirifique, qui était celle de l'Inca. L'Inca, c'était un dictateur comme tant d'autres. Hein. Mais en même temps, les rapports humains et les rapports de hiérarchie entre l'Inca et sa noblesse et ses populations qu'il soumettait, mais à qui il devait, et là, en l'occurrence, pour de bon, il devait sécurité alimentaire autant que militaire. Dans l'Empire Inca, il y avait 80 millions de personnes qui bouffaient à leur faim. On prend l'Europe à la même époque, on était dans des époques d'immenses famines. Il n'y avait pas de famine dans le monde andin. Alors, au cœur de ça, il y avait bien évidemment la pomme de terre, fondamentale, qu'il ne faut pas manger pour rester mince. Mais c'est la frite qu'il faut pas manger, mais la pomme de terre elle-même, c'est un truc extraordinaire.
Elle est pleine de bonnes choses, la pomme de terre.
C'est extraordinaire du point de vue alimentaire. Mais il y avait en dehors de ça, la quinoa, la kiwi, tout ce que le monde andin et le monde des hauts plateaux jusqu'en bas dans les vallées proches de l'Amazonie cultivait à chaque étage, etc. C'était extrêmement riche du point de vue agricole. Les Espagnols ont failli tout détruire. Sans d'ailleurs le vouloir vraiment, sans réfléchir vraiment. Mais ils n'avaient absolument pas. Même si dans les conquérants, il y avait quelques Andalous pas trop idiots qui avaient été eux-mêmes des gros propriétaires en Andalousie et qui avaient bien vu ce que les Arabes avaient laissé comme système d'irrigation et système de culture qui était extrêmement lui aussi sophistiqué. Mais les autres n'ont pas vu et les autres en sont fichus. Et puis les autres voulaient faire crever les gars du coin. Donc, tout ça pour dire que il n'y a aucune raison, dans un pays comme le Pérou, il n'y a aucune raison qu'il y ait qui que ce soit qui ait faim. C'est juste un truc. Et alors, je voudrais juste rappeler aussi, alors je sais bien que les gens qui écoutent Radio Libertaire ont la tête ouverte sur le monde, mais quand même, je veux rappeler, le Pérou, parce que c'est toi qui disais tout à l'heure, les gens riches, je ne sais plus comment tu formulais, mais... Quand les gens construisent des villes comme Villa Salvador ou les autres quartiers populaires, quand les mecs ils crèvent de faim, quand les mecs ils ont pas de boulot, etc., à 30 km de là, il y a des quartiers où les gens vont faire leurs courses le week-end à Miami. En avion, aller-retour, tranquille, mimille, dans les plus grands hôtels de Miami, et qui vont passer les fêtes de Noël à Rome, et puis les fêtes de Pâques à Paris, etc. Tiens, il y a. C'est pas les pays riches et les pays pauvres. Le Pérou est un pays potentiellement incroyablement riche. La Bolivie, pareil. Le Chili, pareil. L'Équateur, on parle jamais. On dit toujours, les pauvres, l'Équateur, etc. Énorme producteur de pétrole, premier producteur au monde de bananes, deuxième producteur. C'est des pays extrêmement riches. Richissimes. Mais
c'est la redistribution
qui ne se fait pas.
Quand on pense qu'en France, l'un des pays, du point de vue agricole, les plus fertiles du monde, qu'il y a eu des famines, mais c'est à se taper la tête contre les murs. En France, on a tout. On a un littoral extrêmement long, donc côté pêche, aucun problème. On a des terres, la Beauce, l'Abri, toutes ces terres-là sont fabuleusement fertiles. On a des hautes montagnes, on a des moyennes montagnes, on a des basses montagnes, on a des fleuves et des lacs et des étangs, en veux-tu, en voilà, on a des forêts. Enfin, ça devrait être totalement impossible qu'il y ait eu à aucun moment de l'histoire de France des famines. Or, souvenons-nous que les dernières famines vraiment méchantes, elles ont provoqué quoi ? La Révolution française. C'est que pendant 10 ans, quand les paysans, quand les gens dans Paris hurlent qu'ils veulent du pain, c'était pas métaphorique, ils voulaient du pain. Et ils savaient que, désolé, du pain, le blé avait poussé un peu partout. Seulement, les spéculateurs, les nobles, etc., avaient accaparé la chose. Donc, à nouveau, la famine, désolé, ça devrait pas exister dans l'histoire humaine.
Non, mais surtout... Le Villa Salvador est sur une zone désertique. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien qui pousse. C'est vraiment, ça a été la croix et la bannière pour développer cette ville. Mais le Pérou, par contre, est un des rares pays au monde où, si mes souvenirs sont bons, il y a 90% des niches écologiques de la planète qui sont au Pérou. Enfin, je m'exprime clairement parce qu'avec les chiffres, on
dit souvent. Il y a tellement de climats différents, voilà, tu vis dans
le monde. Il y a dans le monde 100% de niches écologiques différentes, réparties dans le monde. Et bien, 90% existent au Pérou. Elles peuvent exister ailleurs, mais. Au Pérou, il en existe 90%.
Ils ont des montagnes, c'est ils ont des vallées, ils ont
il y a des niveaux. C'est d'une richesse écologique. Et là, c'est pas seulement. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler dessus. C'est que. Et les gens d'El Salvador sont les héritiers de ça, d'une certaine manière. Le monde andin. C'est que cette richesse écologique, de plus en plus, tu te rends compte, un peu comme l'Amazonie d'ailleurs, que c'est pas le produit du bon Dieu, et que c'est pas le produit du hasard, et que c'est pas simplement le produit de Dame Nature. C'est le résultat d'un travail intelligent de l'homme sur son environnement depuis des milliers d'années. Mmh. C'est l'humain qui, travaillant au plan agricole, dans des relations avec les arbres, les machins, les plantes, etc., développe un environnement qui s'avère ensuite être extrêmement riche dans sa diversité. L'homme y est pour beaucoup. On va dire qu'ils ont des milliers d'années de travail, de relation avec la Terre, qui est à peu près à l'inverse dans l'orientation de ce que nous, on a développé depuis 2 siècles. Parce que nous, moi, j'ai rien développé du tout, personnellement.
C'est pas vrai, mais c'est de sa faute.
On est à peu près à l'envers. À l'envers. Mmh. Donc, voilà. Et... C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais ouais, les paysans, ils viennent à la ville pour accéder à la culture, etc. Attention, les paysans, et souvent les paysans ont conscience aussi, qu'ils sont issus d'une grande histoire et d'une grande culture. D'où leur colère permanente, leur courroux permanent, on est dans un pays qui est incroyablement raciste. Et je reviens à Villa Salvador là-dessus, c'est que un des impacts... À mes yeux, mais pas tout seul, hein, il y a plein de gens qui l'admettent au Pérou, c'est qu'un des impacts majeurs de Villa Salvador, ça a été la modification profonde du comportement de la société dans son ensemble quant à la question des origines ethniques. Des origines raciales, c'est très mauvais, des origines culturalo-ethniques. C'est-à-dire qu'avant, franchement, jusque dans les années 70, quelqu'un d'origine africaine descendant d'esclaves, c'était vraiment un moins que rien ou une moins que rien. Un paysan descendant des Andes, jusqu'à une période post-coloniale, il n'avait même pas le droit de rentrer dans Lima à partir d'une certaine heure de fin d'après-midi. Et la ville blanche se protégeait de tous ces sauvages. À Villa El Salvador, s'est créé une culture de métissage culturel et social comme il n'avait jamais existé auparavant au Pérou, avec des dirigeantes, en particulier une qui s'appelait Maria Elena Moyano, qui était une métisse de descendants d'Africains, qui a joué un rôle majeur là-dedans. Un, pour la reconnaissance des femmes, deux, pour la reconnaissance de qui elle était, et d'ailleurs, y compris de dire, et j'ai aussi le droit de revendiquer, de ne rien revendiquer de mes origines, je suis moi. Hop, c'est ils n'avaient pas le luxe, ils pouvaient pas s'offrir le luxe. C'est un peu polémique ce que je veux dire, mais ils pouvaient pas se payer le luxe à l'époque, vu les urgences sociales absolues, se payer le luxe de trop longues polémiques sur les questions ethniques. C'était égalité. Nous sommes tous des citoyens péruviens. Je suis noir, t'es blanc et je t'emmerde. Voilà, voilà. Ou pas. Ça dépend de toi et ça dépend. Voilà. Et on peut avancer ensemble. Et donc, ça, c'est déterminant. C'est-à-dire que maintenant, au Pérou, ça n'étonne plus personne que un gamin, qui sort de Villa El Salvador et qui a 20 ans aujourd'hui soit le fils d'un petit commerçant, qui lui-même est le fils d'un agriculteur illettré d'il y a 50 ans, et que ce gamin soit, à l'heure actuelle, responsable d'un théâtre à Montréal. Wow. Un petit-fils de paysan des Andes, il fait du théâtre à Montréal, il est directeur d'un théâtre à Montréal, l'autre, il est écrivain, l'autre, il est ci, le tien. Wow.
Je crois qu'on va terminer là-dessus.
On a fini?
Ben oui. On a fini. C'est bientôt.
C'est
bientôt le proton se rebiffe.
C'est bientôt le proton se rebiffe. Donc, j'avais un truc encore à dire, et ben, soit ça sera pour une autre émission, si tu veux revenir.
Ouais, oui,
et puis on abordera le, on finira l'économique et on emboîtera sur le politique ou je sais pas. Mais puis surtout que tu devais partir tôt parce
c'est
que,
ça, il faut que je parte.
Voilà, c'est on va dire au revoir parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jean-Michel.
Ouais, oui.
Il est venu exprès à l'émission, il est fallu venir exprès, mais c'est
go
son anniversaire le 18.
Mais, go first sur le stage.
Wow.
Bah, merci d'être venu. Nous, on va se retrouver le 2 octobre pour une émission sur le fantasme de la République avec un petit focus sur Eugène Verlin pour le 184e anniversaire. En fait, ce sera le 5 octobre, mais nous, on va faire ça le 2. Et puis... je vous annonce quand même que le samedi 23 octobre au CICP 21 rue Voltaire, dans le 11e, métro rue des Boulets, se tiendra le marché solidaire animé, entre autres, par plusieurs membres du secrétariat international de la CNT, avec distribution de cafés à pâtisse de 14 à 20 heures, un marché solidaire de 14 à 19 heures, avec le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques, voilà, comme ça on reste dans le thème, le Milpa, donc c'est l'artisanat du Chiapas, c'est entre ici et là, artisanat de Palestine, avec un apéro discussion de 19h à 21h sur l'actualité des coopératives et plus largement au Chiapas, avec trois personnes d'échange solidaire qui ont été là-bas cette année. Voilà, il y aura bar et petite restauration sur place.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce soir, c'est le Proton sur Rebif. Et nous allons parler ce soir d'un livre fort bien écrit et tout à fait d'actualité, même s'il a été publié il y a 2 ans, et qui s'appelle « Le linceul du féminisme », sous-titre « Caresser l'islamisme dans le sens du voile ». C'est de Naem Bestanji et ça a été publié aux éditions Ceramis. Donc on voit tout de suite qu'il s'agit d'un livre sur... Le voile islamique, et j'aurais plutôt tendance à dire, à peu près comme l'auteur, le voile islamiste. L'actualité a remis le problème sous les feux des projecteurs, si j'ose dire, puisque Gabriel Attal, ministre de l'Éducation et de la Macronie, vient de décréter l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles. Relativement récemment également, le Danemark a interdit les autodafés de Coran. Vous savez que tant l'extrême droite hollandaise que l'extrême droite suédoise s'étaient livrées à des autodafés du Coran qui avaient déclenché des manifestations un peu partout dans le monde musulman. Et le livre, lui, eh bien, le titre est assez clair, je crois. Ce linceul du féminisme, c'est bien entendu le voile. Le livre est remarquablement bien écrit, plein de phrases tout à fait percutantes, et il est écrit dans l'optique d'un homme qui est né dans une famille musulmane, puis qui s'est petit à petit, même très tôt, on va le voir, s'est écarté de l'islam, est devenu athée. Alors après, c'est pas très clair, il parle d'un islam progressiste, est-ce qu'il est encore athée, ou est-ce que son islam progressiste est quelque chose, est une sorte de culture et non pas une sorte de religion, c'est pas très clair. Mais en revanche, ce qu'il nous dit